Tout le monde. Je vais vous dire une affaire. Quand on rassemble des gens d'une communauté dans une salle, puis au bout de 15 minutes qu'ils sont ensemble, ça jase qu'on s'entend plus réfléchir, ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a une communauté qui aime se parler. C'est bon signe. Moi, je suis très content, en tout cas. Si vous êtes d'accord, on va commencer. Il est 7 heures. Puis ce soir, on a pas mal de stock. Puis comme je disais à Anne-Claude, la DG, tout à l'heure, j'ai l'impression ce soir que comme conseil municipal élu depuis cinq mois, c'est notre première séance publique où j'ai l'impression que l'ordre du jour nous appartient. C'est-à-dire que on a commencé, avec le temps, à maîtriser nos dossiers, prendre des décisions. Puis ce soir, il y a beaucoup de points à l'ordre du jour qui reflètent ce que le nouveau conseil veut. Avant ça, on était beaucoup dans la continuité des dossiers qui avaient été débutés par l'ancien conseil. Fait que, on commence à se sentir plus chez nous, bref. Fait que... Comme d'habitude, je vais vous présenter le petit mot du maire. En termes de gestion municipale, je vais parler un peu de Suzanne Guillemette, de la soirée des sommets, l'administration du programme lavage d'embarcation. Je vais vous donner brièvement un état du dossier concernant relief mauricien. On va parler de consultation publique sur le projet de paysage humanisé. Puis finalement, je vais aussi vous donner un état de situation pour ce qui est de la digue du lac Adam, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement. Je suis tenant, toujours au but de pencher, de parler. Fait que je voulais commencer la soirée sur des notes très positives. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, là, mais notre député, Simon Allaire, a fait une petite présentation à la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale du Québec. Puis, et que ça ne m'étonne pas que c'est Louise qui m'ait corrigé tout de suite. Donc, le 25 mars dernier, Simon Allaire a voulu rendre un hommage à Suzanne Guillemette. Je l'ai écouté. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. C'était disponible sur toutes les plateformes, y compris la nôtre. J'ai trouvé ça très senti. J'ai trouvé ça très bien de sa part de reconnaître l'immense apport que Mme Guillemette, Suzanne, a eu et continue d'avoir à Saint-Mathieu-du-Parc. Je pense que pour nous, c'est une fierté. Je voulais juste renchérir les mots de Simon ce soir puis vous dire qu'au nom du conseil, on est tous d'accord pour dire un grand merci à ce que Suzanne a fait avec son équipe, avec sa gang, au cours des dernières années. Je vais finir en vous disant, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, vous allez m'entendre le répéter souvent au cours des 4 prochaines années. Comme municipalité qui n'est pas tellement importante en termes de nombre d'habitants et donc de budget, selon moi, on est mauditement chanceux d'avoir la petite place des Arts. C'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu où il y a des belles expositions, c'est un lieu où il y a des activités sociales dont on profite tous comme communauté. Normalement, ce genre de lieu-là, une municipalité qui a les moyens va se l'offrir. On va avoir des infrastructures socio-culturelles qui vont être propriété de la municipalité. À Saint-Mathieu, on n'a pas les moyens de se payer ça. Ça fait qu'on est très privilégié d'avoir quelqu'un du privé qui a vraiment à cœur le bien de la communauté, d'avoir mis ça en place. Un jour, qui sait, peut-être qu'on aura les moyens, mais pour le moment, on est privilégié d'avoir la petite place des Arts. Ça a été un gros mois, le mois de mars, parce qu'on a eu aussi la soirée des sommets des jardins de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Masquinongé, le 20 mars dernier, à Louisville. J'y ai assisté. Il y avait quelques entreprises qui étaient lauréates ou en compétition pour des prix de reconnaissance. Et Saint-Mathieu a reçu, une entreprise de Saint-Mathieu a reçu deux prix importants quant à moi. D'abord, le prix pour les meilleures pratiques en ressources humaines performantes qui a été octroyé à la pépinière du parc. Et je vais vous dire, puis je pense que Mme Bellemare est ici ce soir, Evelyne, oui. Je pense que je vais vous dire une chose, s'il y en a une qui a été surprise ce soir-là d'avoir le prix de la personnalité d'affaires de l'année de la MRC, c'est Evelyne. J'ai appris à connaître Evelyne un petit peu plus au cours des derniers mois, puis je vais vous dire que quand on commence à la connaître, on comprend très bien qu'elle puisse recevoir un prix comme ça, d'autant plus que l'autre prix, qui est pour les ressources humaines, tu sais, la gestion performante des ressources humaines, elle est DG de l'entreprise pépinière du parc, fait que c'est pas mal sa job. Fait que les deux sont liés, en fait, c'est une reconnaissance double du beau travail d'Evelyne, fait que bravo Evelyne. OK. Je voulais vous parler aussi un peu ce soir de ce que j'appelle, moi, le programme lavage d'embarcation. Comme vous le savez, on s'est donné un règlement comme municipalité l'année dernière pour instaurer des mesures qui permettent de contrôler le transport ou le déploiement des espèces envahissantes exotiques. Il y a des questions qui nous ont été posées dernièrement en séance publique concernant ce programme-là. Ça va être la première année qui va être vraiment mise en place. Je peux vous annoncer ce soir qu'à partir, tout va devenir public dès mercredi prochain, là, le 15 avril. On va avoir tous les détails du programme, mais tout est prêt. Alors, on a les vignettes, on a les formulaires à remplir. Tout ça va être expliqué en long et en large. Et les gens de l'administration vont être prêts à recevoir des demandes de formulaires, de vignettes, etc., pour que le programme soit en place le plus tôt possible. Il y a des impératifs. Là. On s'était donné comme objectif d'avoir ça en place pour le début du mois de mai. Aussitôt que les glaces vont être parties, il y a des gens qui vont vouloir commencer à mettre leur embarcation à l'eau. Fait que on va être prêt. Tout va bien. Tout est beau. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Un petit état de situation du dossier relief mauricien. Comme vous savez... Excusez-moi, je chauffe dans le micro, ça fait faire sursauter du monde. On a une entente de gestion avec Relief Mauricien pour la gestion du parc récréo-forestier. La gestion du parc récréo-forestier, ce n'est pas, vous vous souviendrez, là, je l'avais dit une couple de reprises dans le passé, là, ce n'est pas une entente où la municipalité délègue la gestion d'un parc municipal. Parce que le parc récréo-forestier, ce n'est pas un parc municipal. C'est là où on a deux bails, deux baux qui nous appartiennent. En fait, un bail puis une autorisation. L'autorisation de faire des sentiers qui nous avait été transférée il y a longtemps par la coopérative forestière. Et le bail où il y a le stationnement. On a décidé comme conseil... Et je pense que c'est un peu la vision de l'ancien aussi, mais je ne peux pas parler en leur nom. Là, mais on s'occupe de ce dossier-là en se disant que, comme ce n'est pas la délégation de la gestion d'un parc municipal, ce qu'on veut, c'est offrir à Relief Mauricien une opportunité de développement économique pour qu'il puisse servir nos citoyens. Fait que c'est important qu'à moyen terme, ils deviennent autosuffisants financièrement. Et c'est pour ça que cette année, on leur a donné un peu moins d'argent que les deux dernières années. L'argent qu'on leur a donné, c'est de l'argent strictement relié, dans un premier temps, à la réfection des belvédères. Il y a deux belvédères sur un long sentier qui manquent beaucoup d'amour, qui manquent tellement d'amour qu'ils sont rendus non sécuritaires. Et on a lié notre aide financière à la réfection de ces belvédères-là. Relief Mauricien, pour s'assurer de leur autofinancement, ils ont développé un plan d'affaires. Un plan d'affaires que nous, on a vu, qui a une centaine de pages, beaucoup d'activités qui doivent être mises en place. Ils l'ont déposé à la MRC pour obtenir des subventions de programmes existants auxquels tout le monde a droit. Et nous, on était prêts à supporter ce projet-là. On avait une résolution prête d'appui au projet, qu'on a retardé un peu parce que, à un moment donné, il y a eu... des échos qui nous sont venus du ministère des Ressources naturelles, où on a appris que le plan d'affaires développé par Relief Mauricien ne correspondait pas parfaitement à ce que la réglementation, leur réglementation, autorise. Ce qui fait qu'on est dans une situation à l'heure actuelle où Relief Mauricien va devoir réviser son plan d'affaires pour s'assurer qu'il cadre avec la réglementation. Ils vont devoir changer des activités. En tout cas, ils vont s'ajuster, ils sont prêts à le faire. On me dit, il y a eu une rencontre la semaine dernière entre le ministère et Relief Mauricien qui s'est bien déroulée. Je pense que les messages ont bien passé d'un côté comme de l'autre. Et on est en attente d'un nouveau plan d'affaires qui va maximiser les chances qu'ils obtiennent toutes les autorisations dont ils ont besoin pour le mettre en œuvre. Fait que, on en est rendu là. On a publié il y a deux semaines, dans l'infolettre, on a annoncé la tenue des premières consultations qu'on va faire cette année, comme on s'y était engagé en campagne électorale sur le paysage humanisé. Fait que je ne passerai pas au travers de toute l'information que j'ai mise dans la présentation, parce que je me suis dit, mes présentations, le mot du maire, sont jointes aux procès-verbaux des réunions des séances publiques. Si vous voulez avoir accès à plus de détails, je vous invite, quand ça sera disponible, à aller lire l'information. Mais juste vous rappeler que la séance va avoir lieu un dimanche, 31 mai, de 10h à 15h. Le conseil a décidé d'offrir le lunch à ses citoyens. On ne parle pas d'une grosse dépense. On va produire, comme municipalité, un document synthèse sur le sujet qui va être neutre, le plus possible, qui va donner de l'information factuelle sur c'est quoi un paysage humanisé, quels sont les avantages, pourquoi on pourrait embarquer là-dedans, qu'est-ce que ça nous donnerait, quels sont les inconvénients aussi, parce que des projets comme ça, il y a toujours des inconvénients. Il s'agit toujours de mettre ça dans une balance puis voir si on a plus d'avantages que d'inconvénients. On va inviter les gens à déposer des mémoires écrites avant la tenue de la rencontre. Les gens vont même, ceux qui auront déposé des mémoires écrites, vont même être invités à les présenter lors de la séance de consultation, que ce soit très en faveur ou pas en faveur du tout du projet. Ils vont avoir l'opportunité de présenter leur point de vue. La réunion va être restreinte uniquement aux résidents de Saint-Mathieu-du-Parc, saisonniers, permanents, des gens qui ont des baux, qui payent des taxes, des gens qui vivent à Saint-Mathieu, qui ont dans des loyers, par exemple. Mais c'est uniquement les résidents qui vont participer à la rencontre. On va essayer de la diffuser en direct sur Internet. Si les coûts sont raisonnables, abordables, mais dans tous les cas, la réunion va être au moins enregistrée et disponible sur nos plateformes électroniques après. Dans une réunion comme ça, souvent on permet aux gens de voter pour nous donner le pouls un peu de la salle. Puis dans le cas du paysage humanisé, on va avoir une question très simple. Êtes-vous pour ou contre la poursuite de la démarche d'obtention du statut? Ça va être un vote significatif, mais ça ne sera pas un vote décisif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens présents cette journée-là vont avoir un point de vue majoritaire pour ou contre que le conseil va uniquement considérer ça pour prendre sa décision de poursuivre la démarche ou pas. On pourra faire des sondages après, si nécessaire, si on va avoir l'avis de plus de gens. Sondage très simple, très, très simple, qui va donner accès à l'information disponible et qui va dire aux gens, êtes-vous pour ou contre qu'on poursuive cette démarche-là. Il va y avoir un compte-rendu qui va être disponible et rendu public. Et quand le conseil va avoir pris une décision, évidemment, on va rendre ça public lors d'une séance publique, puis on va vous expliquer pourquoi on prend cette décision-là. Finalement, l'état de situation pour le chemin du lac Adam. Il y a une couple de semaines, là, il y a eu des reportages écrits dans l'écho de Masquinongée. Il y a eu des reportages télévisuels à Radio-Canada, à Novo. En tout cas, on a beaucoup parlé. Fait que je me suis dit que ça serait bien que je vous donne un peu là, l'historique, la chronologie de ce qui s'est passé dans ce dossier-là pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Fait que de 2013 à 2016, qu'est-ce qui est arrivé avec le lac Adam? Pourquoi la municipalité s'est ramassée avec la propriété du chemin du lac Adam, qui en fait, pour une bonne part, est une digue qui retient les eaux du lac Adam? Il y a eu non-paiement de taxes de 2013 à 2016. Quand ça arrive, ça, après quelques années, la municipalité demande à la MRC de s'occuper du processus judiciaire pour récupérer, pour mettre le chemin en vente aux enchères. Il n'y a personne qui s'est montré intéressé. Et de facto, quand ça arrive, ça, la municipalité devient propriétaire. Fait qu'on est devenu propriétaire en 2020, 4 ans après le non-paiement de taxes. En 2021, on a découvert, comme municipalité, comme administration, que, en fait, le chemin du lac Adam incluait un barrage, au sens légal du terme, qui est une digue là, d'à peu près 100 pieds de long, une 15-20 pieds de haut, qui retient les eaux du lac avec des calvettes d'évacuation d'eau qui sont à peu près à 1 mètre là, du chemin, là, en termes de... C'est ça qui règle le niveau du lac. Alors, l'ancien conseil, en 2022, n'était pas très content d'avoir hérité de ça sans savoir qu'il y avait une digue. Alors, ils ont mis ça dans les mains d'une notaire pour essayer légalement de procéder à la rétrocession de la propriété du chemin du lac Adam. Et le propriétaire, avant, c'était l'association des résidents ou des propriétaires du lac Adam. Ça a duré presque 2 ans, ça. Ils ont tout essayé, ils ont tout pensé, ils ont essayé tous les scénarios possibles, des avis juridiques qui ont été produits dans le dossier, etc. Et pour finir par se faire dire par la notaire, en vertu du Code civil, des lois en place, etc., il n'y a pas moyen de rétrocéder de force légalement la propriété du chemin du lac Adam. Fait qu'on était propriétaire, puis je pense qu'on va l'être pendant un maudit bout. La seconde surprise dans le dossier, c'était en 2024, en octobre, si ma mémoire est bonne, l'administration, on a reçu une lettre du ministère de l'Environnement, le ministère de l'Environnement, on a reçu une lettre du secteur qui s'occupe des barrages hydriques, nous disant qu'on n'était pas conforme, parce qu'en vertu d'une nouvelle loi qui a été édictée en 2016, on devait produire une étude de sécurité du barrage au plus tard 5 ans après 2016. On ne l'a jamais fait. Fait que là, on commençait à avoir le gouvernement du Québec sur le dos, puis quand ça arrive, ça, c'est pas le fun. Parce qu'ils ont pas mal plus de pouvoir qu'on n'en aura jamais. Fait que en 2025, l'ancien conseil, le conseil précédent, ils ont donné une étude à faire à une firme de consultants en ingénierie, Artelia qui s'appelle, pour évaluer la capacité de rétention du barrage. Ça, là, on voulait savoir combien de mètres cubes d'eau retient ce barrage-là en vertu de normes établies, là, parce que dépendamment du seuil où on est, il y a des normes qui s'appliquent ou pas. Puis le seuil très important, c'est 30 000 mètres cubes. L'étude qui a été demandée par l'ancien conseil, qu'on a reçue, nous, en décembre, donc après les élections, nous a dit, effectivement, on est au-dessus du 30 000 mètres cubes, mais de peu. Si ma mémoire est bonne, là, c'est même pas un 1000 mètres cubes supplémentaires. On a reçu ça en décembre. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'avait annoncé dans une rencontre, la séance publique du mois de février, où on a, nous aussi, demandé une étude supplémentaire qui était déjà prévue. Là. C'était la démarche prévue. On a donné à la même compagnie une étude pour qu'ils nous reviennent. On attend le rapport en août. Pour qu'ils nous viennent avec des options pour que le barrage, on le rende conforme, parfaitement sécuritaire et conforme aux normes. Dans cette étude-là qu'on a donnée, il y avait une première phase où on demandait à la firme d'ingénierie de nous revenir rapidement avec ce qu'on appelle une étude de sécurité. OK? Pour savoir, est-ce que le barrage est sûr? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que la vie des gens est en danger ou les propriétés? Et on a reçu l'étude la semaine dernière. C'est une petite étude, une dizaine de pages. C'est une étude qu'on va soumettre au ministère de l'Environnement. Là, on a reçu le sommaire. Il y a eu une rencontre avec l'administration, puis on va recevoir la version signée, finale de l'étude, possiblement cette semaine. Fait que ça, c'est très important, parce que cette étude-là, elle détermine ce qu'il y a à faire à court, moyen puis long terme, et ça nous rend admissible à une demande de subvention auprès du ministère de l'Environnement au programme PAFMEN. Et j'ai aucune idée, je ne me souviens plus de ce que veut dire l'acronyme, mais c'est le programme... Bon. Merci, Claude. Alors, c'est un programme qui a été mis en place exactement pour des gens qui font face à la situation qu'on fait face aujourd'hui à Saint-Mathieu-du-Parc. Puis en passant, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont regardé le Journal de Montréal au cours des trois derniers jours, mais ils sont payés une traite. Moi, quand j'ai lu plusieurs articles sur le sujet, j'ai découvert qu'on était plusieurs municipalités au Québec à faire face exactement à la même situation que nous. C'est une situation qui a été imposée par la nouvelle loi de 2016 puis qui commence à avoir ses impacts maintenant. Fait que le ministère de l'Environnement, ils ont mis en place un programme pour nous aider à mettre le barrage aux normes. On s'est déjà fait dire verbalement que oui, ça ne devrait pas avoir de problème, on devrait être admissible au programme. Dans le programme, il y a deux volets. Le premier volet, c'est justement l'étude de sécurité, puis le deuxième volet, c'est les vraies dépenses reliées à la mise aux normes du barrage. La première étude, on la renvoie très bientôt, puis elle nous dit, heureusement, que le barrage est en bon état. Il est classé, le barrage, catégorie C, si ma mémoire est bonne, il y a A, B, C, D, E. A, c'est les très gros barrages. E, c'est les petits barrages. Et il y a une cote là, qui est reliée aux conséquences possibles de ce que pourrait avoir, si le barrage lâchait, les impacts que ça pourrait avoir, c'est coté aussi, ça. Puis on est dans le faible. Là. Ça fait que c'est pas... Ce que l'étude nous dit, c'est que le barrage est solide. Il y a des petites choses à faire à court terme. Puis que c'est un barrage que s'il lâchait, il n'y aurait pas des impacts énormes. Je suis sûr que Patrick ne serait pas d'accord avec moi. Il y a une propriété en amont, en aval du barrage, mais on n'a pas une ville qui serait inondée si le barrage lâchait. OK? Donc, quand on va avoir l'étude sur les options pour résoudre le problème à long terme, en nous, là, on va savoir ce à quoi on a à faire face, quel genre de dépenses possibles on devra payer. Puis on va surtout savoir à ce moment-là si le ministère de l'Environnement va nous donner une subvention pour le faire. Et je pense qu'il couvre deux tiers des coûts. Fait que, je l'ai dit, je le répète, on est déjà certain qu'on ne parle pas de millions, là. On parle de, au pire, une couple de 100 000 pour rendre ça selon les normes. Il y a des petites choses à faire. Il faut enlever la végétation sur la digue à l'heure actuelle. En période de crue, il faudrait mettre des sacs de sable, pas parce qu'on pense que l'eau va déborder, mais pour être sûr qu'elle ne déborde pas et qu'elle n'effrite pas le chemin. Fait que c'est des choses dont la municipalité va s'occuper incessamment. Puis avec ça, on est capable de faire du chemin. L'étude nous dit que, avec tout ce qu'il y a à faire, qu'une fois que les petites mesures à court terme vont être mises en place, l'étude nous dit qu'on devrait être capable de réparer le barrage en 2031. Fait que... Vous comprendrez que si les ingénieurs nous disent qu'on doit le faire en 2031, c'est que ça ne va pas si mal que ça. Et finalement, je voulais vous dire que l'administration Anne-Claude, moi-même, on est en communication avec le MLCP, on continue là-dessus. Le MLCP, ça, c'est un ancien acronyme. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la faune et des parcs. On est en discussion avec eux, ça va bien. Il y a eu une rencontre... Il y a des rencontres de prévues, l'admissibilité s'annonce bien. Ça aussi, ça me semble être un dossier sous contrôle. Fait que sur ce, je vais m'arrêter puis je vais vous demander si vous avez des questions sur un des sujets que je viens de couvrir ou même des commentaires.
Bonsoir. C'est rapport à Relief Mauricien. Vous avez dit que vous avez eu des échos. Vous avez eu ces échos-là sous quelle forme, là? Des téléphones ou?
Le ministère des Ressources naturelles et des forêts a envoyé une lettre à Relief Mauricien pour leur faire part de leur position sur l'information qu'ils avaient eue. Et l'information était fragmentaire parce qu'en fait, Relief Mauricien n'avait jamais déposé leur plan d'affaires encore auprès du ministère. Ils l'avaient déposé à la MRC pour une demande de subvention, puis eux l'ont partagé avec tous les ministères dans le cadre d'un processus normal qui est fait régulièrement, c'est-à-dire qu'un organisme subventionnaire va demander un avis sectoriel à tous les ministères qui sont impliqués dans le dossier. Fait que c'est une lettre pour laquelle on était en copie conforme. Pourquoi? Parce que le bail du stationnement nous appartient et l'autorisation pour les sentiers aussi nous appartiennent.
Donc, vous avez reçu la lettre aussi.
Oui, André, quand je dis en copie conforme, c'est ça que ça veut dire. Excusez-moi.
J'ai rien vu dans la correspondance. À moins de s'arrêter le mois passé.
Ben là, j'en ai.
Moi, il n'y en a pas. Là.
J'en ai parlé ce soir. Dans la correspondance, tout ce qu'on met, c'est le sugeut de la lettre. On ne donne jamais une copie de la lettre. Et on a jugé
mais
bon.
Elle devient publique. Là. Publique. Quand le sujet, c'est sûr, c'est le sujet qui est marqué là, mais la lettre est publique. C'est la différence.
Ben non, il n'y en a pas de différence, André. C'est pas parce que la lettre n'est pas dans la correspondance qu'elle n'est pas publique ou elle est privée. Là.
Comme ça, elle n'est pas dans la correspondance, mais elle est publique.
Ben, c'est-à-dire que si tu m'en demandes une copie, je ne vais pas te la donner, mais si tu fais une demande d'accès à l'information, tu vas en avoir une copie.
OK, merci.
Bonsoir, moi c'est au sujet du barrage. Ça, c'est ce barrage-là, quand ça a été construit, ça a été construit avec un permis.
Là, Alain, tu me poses une colle. Tu savais que je ne serais pas capable de répondre à ça.
C'est pour ça que je la pose.
Aucune idée. C'est une digue qui a été construite ça, pour faire un lac artificiel. Pour les vieux de la vieille, vous savez que l'Académie est née dans les années 70. Je ne peux pas dire la date, l'année exacte, là, mais ça a été fait. Je ne sais même pas par qui ça a été fait. Mais ce que je peux te dire, c'est que 50 ans après, on est pris avec, par exemple.
Bien, c'est ça que je trouve dommage. Parce que ça devrait être une taxe de secteur des résidents, ça, s'il y a des travaux à faire là-dessus. Bien, à mon avis.
L'idée a été discutée. Mais là, il faut comprendre une chose. Là. C'est que quand tu fais une taxe de secteur, tu vas faire une taxe de secteur auprès des résidents qui bénéficient des travaux qui vont être faits. OK? Et dans ce cas-ci, quand on va mettre de l'argent sur la digue là, pour la rendre sécuritaire, il y a trois résidents qui vont être affectés. Deux ou trois résidences qui vont être affectées. Ceux qui circulent sur le barrage se rendent chez eux. Moi, je vous avoue là, que comme maire, je me sentirais un petit peu gêné de refiler la facture à trois résidents.
Oui, mais ce barrage-là, j'imagine qu'il crée un lac. Il doit créer un lac pas pour juste trois résidents.
Alain, comme tu peux t'imaginer, on ne réglera pas le problème à soir.
Non, non, bien.
J'ai compris que tu aimerais ça que ça soit payé par une taxe de secteur.
Ben,
c'est pas exclu, mais c'est. On n'est pas rendu là dans la prise de décision du conseil. Mm-hmm. Puis l'important, c'est que faut aussi se rendre compte que on va pas faire ces travaux-là là, pour permettre aux gens de se rendre chez eux. Là. On va faire ces travaux-là pour assurer la sécurité d'un barrage qui, s'il lâchait, il se ramasserait à 351 en bas, il partirait avec une partie de la route, puis peut-être avec d'autres personnes affectées en bas dans le plein. Là. Fait que c'est une question de sécurité. Quand c'est une question de sécurité, la façon dont on deal avec ça n'est pas la même que quand on offre un service pour que des résidents se rendent chez eux. Là. Puis comme je dis souvent, puis je vais le répéter à soir, on ne refera pas le passé. Là.
Non, non,
il y a des choses qui ont été décidées, il y a des choses qui ont été faites. On est pris avec ça. On va essayer de traiter ça au mieux. Si on a une très bonne subvention qui paye les deux tiers de la dépense, j'ai l'impression que la municipalité va avoir les moyens de se payer ça, là, sans augmenter une scène de taxes.
Parce que ça, un barrage de même, à tous les 10 ans, je crois, qu'il faut que ça prenne l'ingénieur. Pour,
oui. Dans ce cas-là, si on tombe en bas des 30 000 mètres cubes, je pense que c'est aux 15 ans. Mais ça demande une inspection visuelle de l'état des lieux deux fois par année. Fait que,
on va suivre le dossier, monsieur. Merci.
Oui, Alain, je t'invite à faire ça. Puis on va vous, je pense qu'à date, je vous ai convaincu que quand on disait qu'on allait être transparent, c'est vrai.
Oui.
Fait qu'on va vous revenir à chaque étape avec les décisions qu'on a à prendre, puis on va vous expliquer pourquoi on prend telle décision en vertu de quel argument.
Merci.
Éric, si tu me permets, juste un petit rappel à tout le monde de penser à vous présenter quand vous intervenez pour les personnes qui écouteront les enregistrements par la suite. Merci.
Bon, Laurier Julina. Pour le barrage, l'Académie, il n'y aurait pas moyen de mettre ça à l'état naturel?
C'est une des options.
Oui.
Bien sûr. Mais comment tu penses que ça va coûter faire ça?
Ben, je ne sais pas, ça va bien coûter moins cher que ça va coûter le futur.
Peut-être moins cher, peut-être plus cher. Ouais. Who knows? C'est une digue. C'est une digue qui a 100 pieds de long puis qui a 20-25 pieds de haut. Là.
Ouais.
Fait que quand il faut que tu commences à. Tu sais, puis le chemin, il va devoir continuer à passer, lui-là. Là. Fait que là, quand tu enlèves ça, il faut que tu mettes une calvette dans le fond de la.
Ouais,
proche du roc. Il faut que tu refasses le chemin à grandeur. Puis. Ce qui pourrait paraître simple et moins coûteux au premier abord, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais de toute façon, Laurier, les ingénieurs vont nous arriver avec toutes les options. Et quand on va les avoir sous les yeux, on va arrêter de fabuler, puis on va parler de réel, puis on prendra une décision à ce moment-là, puis on va vous l'expliquer.
OK.
Bonsoir, Isabelle Fréchette. Pour ma part, moi, c'était juste un petit commentaire comme quoi que ce qui est écrit à l'écran en vert lime, moi, j'ai beaucoup de difficultés à lire. Fait qu'il faudrait que je m'avance énormément pour savoir ce qui était écrit.
Écoutez, je viens juste de me tourner la tête pour le regarder, puis je trouve que vous avez raison pas mal.
Merci.
Il n'y aura plus de vert lime dans ces prochaines présentations.
Cas, quelque chose de foncé, maintenant.
Oui, avec plaisir.
Merci.
Mon Dieu. Non, c'est pas une réussite, mon affaire. Autre question, commentaire? On est-tu prêt? J'aurais pas dû. J'avais une grosse hésitation. J'aurais dû passer à l'étape suivante.
C'est ça. Non, juste concernant le règlement des. Je l'ai dit, mais je vais le répéter. Jean Lachaume. Concernant le règlement des lavages de bateaux. Au lac Ancroix-Barnard, ça fait quelques années, ça fait 3 ans qu'il est en fonction. Après la première année, on avait discuté pour avoir des pancartes un peu plus visibles à l'entrée du chemin. Tu sais, c'est une petite pancarte, là, genre 2 pieds par 2 pieds. Là. Quand tu passes vite, tu ne vois rien. Je ne sais pas au niveau des pancartes, si vous avez figuré des choses là, à ajouter sur le territoire. Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est, on a remarqué que des fois, les gens arrivaient au lac en haut, puis ils disaient, bien, on a appelé à l'hôtel de ville, ils nous ont dit que c'était pas grave. Fait que là, je ne sais pas, ça serait peut-être important, tu sais, d'informer les personnes à l'hôtel de ville qui ont un règlement, puis qui sont obligées de se conformer.
Je pense que les temps ont changé, Jean, puis ouais. Je vais te dire pourquoi. D'abord, il y aura une campagne de sensibilisation la semaine prochaine, comme je l'ai dit tantôt. Les gens vont comprendre que c'est une obligation réglementaire. Puis les gens qui sont responsables de débarcadères, comme vous autres, comme Claude Frigon au Lac-Souris, ils vont exiger des gens qui arrivent avec leur bateau, soit qu'il y ait une vignette de collier sur leur bateau ou encore le formulaire de déclaration de lavage ou la preuve de lavage du bateau en main. Sans ça, les bateaux n'iront pas à l'eau. Je pense, Claude, que je peux dire ça.
Oui, mais regarde, dans notre cas, c'est un débarcadère public, puis on n'a aucun moyen d'empêcher les gens là, d'aller à l'eau, même s'ils ne sont pas lavés, là. Je ne sais pas, à ce moment-là, il y a des infractions prévues. Est-ce qu'il va y avoir une procédure à ce niveau-là?
C'est un règlement qui est surtout basé sur la volonté des gens de l'appliquer. Dans votre cas, c'est vrai que c'est un débarcadère public, mais vous avez quelqu'un qui est en place. Les gens, soit quelqu'un de votre association qui dit, verrait que la personne est en infraction, n'a pas les documents nécessaires, ou encore M. Frigon au Lac-Souris, vous n'avez pas l'autorité d'émettre des constats d'infraction, mais vous avez certainement l'autorité de constater quelque chose et de nous en faire part. Et nous autres, on a des inspecteurs qui ont l'autorité légale d'émettre des constats d'infraction, puis j'ai lu le règlement personnellement pour savoir de quoi je parle un peu, puis les infractions sont assez coûteuses.
Hein? Oui. À ce moment-là, est-ce qu'il va y avoir une procédure à ce niveau-là qui pourrait être faite puis qu'on pourrait transmettre aux gardiens, dans notre cas, à M.
Certainement.
Merci. Pour la première question, pour les pancartes.
Je m'y engage. Pour ce qui est des pancartes, on en a parlé, mais j'avoue que je me souviens plus si on a prévu de nouvelles pancartes. Mais c'est un programme qui va s'améliorer, qui va vieillir comme le bon vin. Hein? Fait que on me dit, Anne-Claude me dit qu'il n'y avait rien de prévu. On va l'essayer cette année, on va voir ce que ça donne. Puis s'il y a encore une demande pour avoir des pancartes plus visibles, plus efficaces, on va s'ajuster en conséquence. Puis même qu'on ne sera peut-être pas obligé d'attendre le budget de l'année prochaine, des pancartes, ça ne coûte pas la mer à boire. On aura peut-être un petit peu de lousse à l'automne là, pour se préparer pour l'année prochaine. Sur ce, si vous êtes d'accord, on va officiellement débuter notre ordre du jour. Ce soir, on a beaucoup de choses à vous parler, tant en gestion financière et administrative, sécurité publique, travaux publics, urbanisme. Comme je le disais, beaucoup de choses qui sont nouvelles, qui sont l'œuvre de votre nouveau conseil. Sans plus tarder, je vais demander si j'ai un proposeur pour adopter notre ordre du jour. Yves nous propose ça. Barthélémy? Michel, tu approuves ça, toi? André? Louise? Louis. Parfait. On est en business. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars. Il a été produit, il a été lu par les membres du conseil, il a été corrigé. On en est très satisfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour le procès-verbal de la dernière réunion? André, merci. Louis, d'accord avec ça? Louise? Yves? Michel? Barthélémy?
Oui.
On a eu de la correspondance. Je pense que vous aviez disponible une feuille sur laquelle il y a la correspondance qu'on a reçue. On a eu, si vous regardez au point, on n'a rien eu. En fait, on a eu du gouvernement du Québec, on a eu la lettre de relief mauricien. Du Canada, on n'a rien eu. On a eu des demandes de support de deux types. Si vous regardez 3.2, 3.3 et 3.4, c'est toute la même chose. C'est des municipalités qui veulent que le gouvernement du Québec, le ministère des Transports, retourne à ses anciennes normes pour la réfection de chemins. C'est bien, ils font face aux problèmes. Nous, on a regardé ça et on s'est dit... Si un jour on a affaire de la réfection de chemin, les nouvelles normes nous conviendraient, ça fait qu'on ne s'en mêle pas. On a eu aussi une demande de support de la municipalité d'Upton pour la Société d'habitation du Québec pour qu'ils remettent en place un petit programme d'établissement pour l'accessibilité des gens en difficulté de déplacement. Là. Puis ça non plus, on a décidé de ne pas s'en mêler. On a eu une demande de contribution financière de la FADOC, on va en parler plus loin dans l'ordre du jour. On a eu une demande citoyenne pour qu'on se mêle du programme fédéral de rachat des armes à feu. Vous vous souvenez, je pense que c'est la loi C-13 fédérale qui a été adoptée en 2023. Le programme de rachat des armes illégales est en marche. Il y a beaucoup de municipalités qui reçoivent des demandes de support pour qu'on aide à faire réviser la liste des armes qui ont été déclarées illégales ou pas. Ça a été discuté à la MRC, à la table de tous les maires. On a décidé à la MRC qu'on ne s'en mêlait pas. Alors, ici à Saint-Mathieu, on a décidé aussi qu'on ne s'en mêlait pas. On ne prend pas parti. C'est une loi fédérale, de juridiction fédérale. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que le fédéral a décidé de faire, mais qui se rapportent au fédéral et qui fassent des pressions là où ça peut être utile. On a eu une demande de l'Association des propriétaires du lac Garou et Blanc pour le remplacement d'un ponceau. Ça va être discuté en temps et lieu dans le cadre du PTI, le programme triennal d'immobilisation. Fait que pour ce qui est des correspondances, c'est ce que j'avais à dire. On serait prêt à passer au point suivant. Ah, désolé, il y en a une autre. Oui, en fait, deux autres choses. Vous savez, à la dernière réunion, je vous ai annoncé que votre conseil voulait essayer de mettre en place ici à Saint-Mathieu un programme des premiers répondants. Après ça, on a appris que l'UMQ et la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, les deux, avec le gouvernement du Québec, ont établi un comité de travail pour regarder ça. Et l'automne dernier, ou tard l'été passé, mais on a eu la lettre seulement récemment, nous, l'UMQ et la FQM y ont écrit au ministre de la Santé conjointement pour se plaindre du fait que c'est encore du pelletage de responsabilités provinciales dans le cours des municipalités, cette histoire-là, parce que le programme de subvention qui nous aide à mettre ça en place ne couvre pas tous les coûts. C'est un point important, ça nous a fait réfléchir. Par contre, on a décidé de ne pas arrêter notre démarche, fait que on a eu une résolution de prise pour évaluer la possibilité de mettre en place ce programme-là lors de la dernière séance publique. On a déposé notre demande au ministère de la Santé pour qu'il nous donne les statistiques d'intervention que les ambulanciers, les médecins, tout ce qui se fait sur notre territoire, pour qu'on soit à même, après ça, d'évaluer les coûts. À ce moment-là, on va savoir ce qu'on pourrait recevoir comme support financier du ministère de la Santé pour mettre ça en place. Et là, à ce moment-là, on verra, comme conseil, si on décide d'aller de l'avant ou si on décide d'attendre de voir ce qui va arriver avec les pressions qui sont faites au niveau provincial pour ce qui est de l'aide financière. Finalement, on a eu le rapport annuel de l'ASPA de Mauricie. Alors, on est rendu au point 5, approbation des comptes soumis. Pour ce qui est des comptes soumis, la première page, vous souviendrez, c'est des paiements qu'on fait directement. La très grande majorité, c'est relié au salaire, tant de votre conseil que des employés municipaux. Société de l'assurance automobile de 14 000, si ma mémoire est bonne, c'est toutes nos immatriculations de véhicules. Fait que vous avez à la page, vous avez une page aussi qui vous parle des listes des comptes à payer, donc on va donner l'autorisation à Anne-Claude de payer tout ça cette semaine. Encore là, il n'y a rien de spécial, sauf que je vous avais dit, on a des beaux micros, vous nous entendez bien, on a des bons haut-parleurs, on a même des belles petites nappes. On avait mis 10 000 dans le budget de côté pour faire ça. Ça nous a coûté 8 500. On va le payer ce mois-ci. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Anne-Claude de nous déposer ça. Anne-Claude, dépose-nous ça. Certifie qu'on a de l'argent pour payer ça.
On a de l'argent pour payer ça.
Merci. Qui nous propose le paiement des comptes à payer? Yves? Barthélémy, d'accord pour qu'on paye ça?
D'accord.
Michel?
Oui.
André?
Oui.
Louise?
Oui.
Louis? On est en business.
Oui. André Version, pour les comptes. Il y a... Parce que je ne sais pas si c'est un doublon, là, mais la ligne 504-136 puis la ligne 504-144, Cooptel, Internet, Pacré-Créau Forestier, le même montant, les deux. Je ne sais pas si c'est un doublon, là. Ou à moi, il y aurait, je ne sais pas, moi, deux Pacré-Créau Forestier.
136.
144 puis 504-136. Ah, OK, on est en retard.
C'est prélevé directement.
Oui, mais on l'avait pas autorisé formellement.
OK. C'est beau, merci.
On n'est pas en retard, M. Bertillon.
Oui, mais ça, c'est des prélèvements automatiques. Oui. Fait que, on serait maintenant rendu à la gestion financière et administrative, le point 6 de l'ordre du jour. 6.1, c'est le dépôt du rapport annuel, Anne-Claude, sur tous les contrats qu'on octroie.
Je dépose le rapport annuel portant sur l'application du règlement de gestion contractuelle, c'est-à-dire qu'à toutes les années, à ce temps-ci, on dépose un rapport qui sera disponible dès demain sur le site Internet. C'est tout, vous allez trouver tout l'ensemble des contrats qu'on a donnés à plus de 25 000 $ pour l'année financière précédente, donc pour 2025. Alors, je dépose le rapport.
C'est un beau petit rapport, en couleur, avec des détails sur chacun des contrats, le montant qu'on a payé, etc. Fait que si c'est le genre de truc qui vous intéresse, je vous invite à le lire. 6.2, après chaque élection, le nouveau conseil doit redéposer, revalider le code d'éthique et de déontologie qui nous régit, nous, les membres, les élus. Fait que souvent, le nouveau conseil va reporter exactement la même version du code qui était là avant. Dans notre cas, on a décidé de le modifier. Puis je vous avoue que la pression pour le modifier est venue de moi au départ, quoiqu'à la fin, tout le monde était d'accord. Mais vous savez, les codes d'éthique là, et de déontologie dans la fonction publique, ça évolue avec le temps. Au départ, il y a très longtemps, on se préoccupait des conflits d'intérêts. qui est potentiel qu'il pouvait y avoir chez les élus ou les fonctionnaires. Les conflits d'intérêts, au départ, c'était uniquement des conflits d'intérêts de nature monétaire. C'est-à-dire que si on était dans une situation où on profitait monétairement de quelque chose à cause de notre position, on était en conflit d'intérêts, etc., puis il y avait des mesures à mettre en place. Après ça, le conflit d'intérêts a été élargi pour parler d'autre chose que d'argent. Toutes sortes de trafics d'influence possibles. Finalement, dans les fonctions publiques provinciales et fédérales aujourd'hui, là, on ne parle plus seulement de conflit d'intérêts. On a ajouté la notion dans les codes de déontologie, les codes d'éthique, qui régit toute la fonction publique provinciale et fédérale. On a ajouté la notion d'apparence de conflit d'intérêts. Quand il y a un conflit d'intérêts possible, c'est au conseiller à l'identifier, à en faire part à ses collègues, puis à se retirer des discussions qui touchent ce sujet-là. Quand on parle d'apparence de conflit d'intérêts, là, on n'est plus dans notre tête à nous autres, comme élus. On se préoccupe de ce qu'il y a dans votre tête, les gens qu'on sert, les résidents. Puis on se demande, est-ce qu'il y a des situations où on va créer, à cause de l'information qui est disponible, à cause de n'importe quoi, est-ce qu'on peut créer dans la tête de nos commettants, les gens qu'on gère, dont on gère les fonds publics, les taxes, est-ce qu'on peut créer l'idée ou l'apparence qu'il y a un conflit d'intérêts? Et ça a été intégré, ça, parce que ça se gère. Tu sais, on peut faire attention, on peut se... dès qu'on pense qu'il peut avoir apparence de conflit d'intérêts, on peut en informer la population en séance publique, on peut expliquer pourquoi il y a pas... Il y a une apparence, mais pourquoi il n'y a pas de conflit, etc. Tu sais, ça fait qu'il y a des mesures qui sont prises, qui sont mises en place dans le code de déontologie pour gérer cet aspect-là aussi. Ça fait que c'est ce qu'on a décidé de faire. On a mieux défini le conflit d'intérêts dans le nouveau code, et on a ajouté une section qui traite d'apparence de conflit d'intérêts. Dans le document que vous avez, une copie papier, là, c'est la section 5.4, si ma mémoire est bonne, ou 5.24, voilà. Fait que, on dépose ce soir le règlement, et on va l'adopter formellement. En fait, c'est une motion de dépôt qu'on fait, là, puis... on va l'adopter formellement le mois prochain. Normalement, le nouveau code de déontologie dont on doit adopter ou reproduire l'ancien, là, la date limite, c'est le 1er mai. Mais on ne sera pas les seuls en retard. On va adopter ça à la prochaine séance, qui est le 4 mai. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui va me déposer ce document-là. Michel. Merci, Michel. Et on n'a pas besoin de vote là-dessus. Donc, je suis rendu au point 6.3. Vous vous souviendrez, lors de la dernière séance, je vous avais parlé d'un petit problème d'augmentation des salaires des élus versus les employés. Il y avait deux méthodes utilisées pour calculer l'IPC, l'indice des prix à consommation. Celle des élus et celle des employés n'étaient pas la même. Ce qui fait que cette année, par exemple, on avait, nous, les élus, droit à 3 % d'augmentation, puis on ne l'invente pas, là, c'était prévu comme ça en fonction du mode de calcul qu'il y avait dans le règlement sur notre paye. Et la façon dont ça se calculait pour les employés, eux autres, ils étaient plus à 2,4 % L'IPC était plus de 2,4 % au lieu de 3, comme il était calculé pour nous. On a décidé que ce n'était pas juste, ce n'était pas équitable. Il n'y a aucune raison au monde pour laquelle on devrait avoir une augmentation de salaire différente de celle des employés pour combler l'augmentation du coût de la vie. Fait que ce soir, on l'adopte. Ça avait été déposé par Louis lors de la dernière séance publique. Alors, qui... donc, juste pour vous dire, là, au mois de janvier, on a été augmenté de 3 % Puis là, on tombe à 2,4 % à partir de demain. Demain, on a notre paye du mois d'avril, elle est à 2,4 % d'augmentation. J'ai besoin de quelqu'un qui me propose ça. Louise Récidive. Tout le monde, Barthélémy, d'accord avec ça?
D'accord.
Michel? D'accord. Yves? André? Oui. Louise? Merci. Ah! Moi, monsieur le maire, j'avais oublié, quand on parle de paye, je dois voter. Puis en fait, après y avoir pas. Non, non, je vote pour.
Ça va rentrer en vigueur le 1er mai parce que vous êtes payé avant votre première séance de conseil du mois.
Ah OK. Ouais. Ben, en tout cas, sur notre paye de demain, c'est déjà le cas. Marie-Pierre me l'a confirmé. 6.4. Régie des transports adaptés. On est obligé par la loi d'offrir le service à nos citoyens. C'est la régie de Shawinigan qui nous offre le service. Ça nous coûte 9 148 $ par année. Et j'ai besoin d'une proposition d'un conseiller pour qu'on puisse payer ça. Alors, Louise nous propose ça. Louis, d'accord? André? D'accord. Yves?
D'accord.
Michel?
D'accord.
Barthélémy?
D'accord.
Merci. On est rendu au point 6.5, qui est la majoration de la charte salariale de nos employés. Là, je fais un petit résumé. Il y a eu des négociations qui ont eu lieu entre l'ancien conseil, le précédent conseil, et les employés pour s'entendre sur une augmentation salariale. C'est des négociations qui étaient sous la responsabilité d'un sous-comité sur lequel siégeaient, si ma mémoire est bonne, le maire, André et Mme Diane Rivard. Il y a une entente verbale qui avait été conclue entre les employés et le conseil, qui n'a jamais été formalisée, qui n'a jamais été rendue officielle, publique. Et quand j'ai su ça, puis d'autres membres du conseil, on s'est dit que ce serait bien que ça soit public. L'entente a été appliquée au 1er mai 2025. L'année dernière, au 1er mai, les employés ont une augmentation de salaire qui respectait les conditions verbales qui avaient été conclues entre les employés et le conseil municipal quelques mois auparavant. Fait que ce soir, on fait juste passer une résolution pour officialiser cette entente-là, parce qu'on a décidé de la respecter et de ne pas la remettre en cause. Alors, souvenez-vous, l'IPC, le principe de base, c'est que les employés ont droit à l'IPC, calculé exactement de la même façon que nous, mais on établit une braquette, c'est-à-dire une marge entre un minimum et un maximum qui ont droit. Le minimum, dans ce cas-ci, va être de 2,5. Donc, l'IPC cette année était 2,4. Ils vont avoir 0,1 plus que l'IPC. Pourquoi un minimum comme ça? Parce que ça participe à instaurer un système de rattrapage des salaires qui permet aux employés d'avoir des salaires comparatifs avec ce qui se fait ailleurs. Alors, si l'IPC est plus que 2,5, ils vont avoir exactement le montant. Mais s'il est moindre, si l'année prochaine l'IPC est à 1, ils vont avoir quand même 2,5. Et dans deux ans, parce que là, il y a une année de passé, on applique ça aux deux prochaines. En 2028, quand on va renégocier avec les employés, nous, comme conseil, on va être capable de calculer ce qu'ils ont reçu de plus que l'IPC, et ça va faire partie de la négociation, vous comprenez? Parce qu'on va être capable de justifier qu'ils ont eu une certaine forme de rattrapage. Pourquoi le maximum à 3,5? Ça, ça a plus rapport avec la municipalité, avec nous autres, avec nos capacités financières. On a vécu au cours des dernières années, vous en souviendrez, des années où on a eu des IPC qui étaient à 6 puis 6,5. Ça, quand ça arrive, c'est un maudit coup, c'est les finances. Puis souvent, c'est difficile à prévoir, c'est surtout difficile à payer. Fait qu'en mettant un maximum à 3,5, on tempère un peu l'impact. Si jamais il y avait des années avec des fortes hausses du coût de la vie, on a un maximum, mais ça aussi, si jamais on fait face à ça, quand on va venir, mettons l'année prochaine, l'IPC est à 7. On donne 3,5 d'augmentation à nos employés. Bien, quand va venir le temps de renégocier l'entente avec les employés, là, ils vont nous le mettre sur le nez, là, qui ont perdu la capacité du pouvoir d'achat. Là. Fait que ça va dans les deux sens, mais ça permet, au lieu d'avoir des fluctuations comme ça, de tempérer. Nous, comme conseil, on a trouvé que ça avait bien du bon sens, puis on a décidé de l'approuver. Alors, ce soir, c'est une résolution qui nous est proposée par Louise, digne représentante du monde syndical, et qui va être appuyée par Barthélémy.
Oui.
Michel?
Oui.
Yves?
D'accord.
André?
D'accord.
Louis?
André Berthiaud. Si j'ai bien compris, là, les employés ont reçu une augmentation printemps passé.
Oui.
Jusqu'à aujourd'hui,
oui.
Sans qu'il y ait eu aucune résolution du conseil.
Exact.
ouvrez votre micro, Madame la directrice, s'il vous plaît.
Non.
Donc ça, ce que M. le maire a dit n'était pas exact.
Bien, plus ou moins. Mais la charte salariale a été déposée et adoptée l'année passée avec les taux de départ qu'on a eus l'année passée. Donc, c'était adopté par résolution le salaire.
Les taux de départ étant?
Il avait augmenté de 3 % ouais, l'année passée.
Plus que ça. 6,2, quelque chose comme ça. Fait oui, c'était adopté passée, par résolution.
Puis l'entente verbale, c'est ça qu'elle disait?
Non.
C'est que le seuil et le maximum, dans ce qui a été résolu l'année dernière, n'étaient pas inclus.
C'est ça.
Il y a eu un manque. Oui, ils ont déposé le tableau de 2025-2026, OK, avec les vrais salaires que les employés sont payés à l'heure actuelle.
Oui. Okay.
Mais le paragraphe disant que pour les années suivantes, 26, 27, 28, c'était 2,5, 3,5 max, 2,5 min, 3,5 max. Ça, c'était pas écrit. Puis les tableaux de ces années-là n'étaient pas dans la résolution non plus.
Donc, si vous ne feriez pas la résolution aujourd'hui, ça ne serait pas applicable, ça, là.
C'est-à-dire que, écoute, André, j'ai vérifié auprès de tout le monde, là, j'ai parlé à Claude Mérand. André faisait partie des négociations. Donc, on fait juste officialiser quelque chose qui avait été conclu, puis une conclusion d'une négociation entre un maire et ses employés, c'est un contrat verbal. Puis un contrat, c'est un contrat. Fait que nous autres, on fait juste officialiser le contrat.
Oui, mais oui, OK, mais parce que la façon dont vous l'aviez dit tantôt, là, c'est comme s'il n'y aurait pas eu la résolution faite avant. Puis ça aurait été illégal. Là. Mais comme madame l'explique, là, c'est juste pour le 26, là, il n'est pas fait encore.
Exact. La résolution est incomplète.
Vous êtes à date pour le faire.
Écoute, les employés vont avoir droit à 2,5 % au premier mix s'en vient. Oui. Puis là, on est légal.
C'est ça. Vous légalisez ce qu'il y avait.
Oui.
C'est ça.
Alors, on serait rendu au point 6.6, adoption des lignes directrices pour les consultations publiques. Je vous ai parlé tantôt dans le mot du maire de ce qu'on allait mettre en place pour les consultations qui s'en viennent le 31 mai sur le paysage humanisé, mais on en a d'autres après ça. Il y en a à l'automne sur les services rendus aux citoyens, puis que ça va inclure de l'urbanisme. Et on a décidé de prendre les résultats de vous savez, on avait formé un comité de citoyens sur lequel siégeaient Evelyne et Mme Evelyne Bellemare et 5 autres personnes, et 2 conseillers et moi-même. Puis on s'est donné, on a travaillé 2 réunions, on a peaufiné un document, le conseil l'a révisé, on l'a approuvé. Et on l'a mis en œuvre pour les consultations du 31 mai qui s'en viennent sur le paysage humanisé. Mais on a décidé que ce serait bien que la municipalité se donne... On va appeler ça à ce moment-ci des lignes directrices. C'est-à-dire que c'est un peu les mêmes étapes qu'on vous a présentées pour le paysage humanisé. Ils sont plus neutres un peu. On détaille au début de ce qu'on considère comme étant une bonne consultation. Et on va appuyer ça ce soir sous forme de résolution. Ça nous donne notre ligne de conduite, les consultations à venir en 2026, mais aussi en 2027. Il n'est pas dit que dans le futur, on ne décidera pas de devenir un petit peu plus fancy. Comme conseil, on va virer ces lignes directrices-là en politique de consultation de la municipalité. Là, ça deviendrait un beau petit document avec un peu plus de babla, des belles couleurs puis des photos. Et ça encadrerait la façon dont la municipalité pourrait faire des consultations dans l'avenir. Le conseil actuel est très confortable avec les résultats du comité. On a modifié un peu, mais rien de substantiel. Je vous donne un exemple. On avait mis dans le document émanant du comité qu'on devait fournir le compte-rendu de la réunion 2 semaines après la réunion. Là, on a tempéré ça un peu en disant idéalement 2 semaines. Là. C'est-à-dire que si on le fait en 16 jours, il n'y a personne qui va être trop vexé de ça, j'espère. Fait qu'on s'est donné un petit peu plus de marge de manœuvre là, comme administration et conseil de produire ce qui doit être produit. Fait que... vous aviez des copies du document. Là-dessus, j'aimerais ça. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? Il va être disponible sur le site de la municipalité dès demain, si ce n'est pas déjà le cas. Oui. On va avoir ça dans l'infolettre de demain, avec le lien vers le centre de documentation sur le site web de la municipalité. Fait que sans plus tarder, je vais demander à quelqu'un de nous proposer ça. Barthélémy nous propose ça. Merci. Michel,
d'accord.
Yves,
d'accord.
André,
d'accord.
Louise et Louis. On est rendu au point 6.7. L'année dernière, on avait un étudiant qui avait été embauché pour inspecter les bandes riveraines dans la municipalité. Je pense qu'il s'était surtout concentré au Lac-Souris l'année dernière. Tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée, c'était budgété. On va engager quelqu'un, la même personne en fait, qui va continuer l'inspection des bandes riveraines pour la municipalité au cours de l'été. 32 heures semaine, puis je pense que c'est 12 semaines, quelque chose comme ça. Pour un contrat, y a-t-il le montant quelque part? Je ne me souviens pas. En tout cas, oui? C'est selon la charte salariale, mais c'est quelques milliers de dollars. C'est un job d'étudiant. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui me propose ça. Yves me propose ça. Michel, d'accord?
D'accord.
Bart?
D'accord.
André?
D'accord.
Louise? Louis? Merci. Bon, on est rendu à la sécurité publique, le point 7.1. Puis enfin, je vais pouvoir me reposer un peu. Je vais passer le micro à André qui va vous présenter ça.
Bon, c'est pas compliqué. C'est un protocole d'entente qu'il y a avec la municipalité, le gouvernement du Québec, qui a une entité à but non lucratif qui gère l'argent du 9 heures. Puis c'est l'argent qui est... Nous autres, on donne l'autorisation à cette entité-là de prendre l'argent et de la remettre à CLR. Ça, c'est la première résolution. Puis l'autre résolution à la suite, c'est le protocole d'entente, la répartition secondaire. Ça, c'est les pompiers, les ambulanciers, les policiers, ils ont des protocoles au 911. Quand il y a un appel qui rentre au 911, si c'est un appel d'incendie, il y a un protocole. Il y a du monde qui sont appelés pour aller sur les lieux d'incendie. Puis si c'est la police, bien, ils sont appelés pas. Puis ça, c'est nous autres, on donne l'autorisation à CLR d'appliquer ce protocole-là. Fait que c'est les deux résolutions qu'il y a là. Moi, je vais les appuyer toutes les deux. Je les ai proposées toutes les deux, c'est-à-dire. Puis...
André, on va y aller en ordre. Fait que la première proposition, c'est pour le service de répartition téléphonique 911 au sens large. André nous propose ça. Louis, tu es d'accord?
Oui.
Louise?
Oui.
Yves?
Oui.
Michel?
Oui.
Bart?
Oui.
Merci. Deuxième autorisation, c'est pour la répartition secondaire incendie. André, tu nous proposes ça?
Toujours.
Louis, d'accord?
Toujours.
Louise? Yves?
Oui.
Michel?
Oui.
Barthélémy?
D'accord.
En passant, là, ça vous coûte 54 cents par mois par ligne téléphonique pour avoir un service 911 au Québec.
Puis en fait, on a passé une résolution pour approuver cette entente-là, mais nous, ça nous coûte rien, là. C'est chacun chacun de vous qui avait une ligne téléphonique terrestre ou un cellulaire qui payait ça chaque mois. Là. Le troisième, 7.3, André, tu veux-tu faire ça aussi?
Ah.
Ou je peux le faire, je suis prêt.
7.3, c'est pour nos pompiers.
C'est relié à ce que je vous annonçais, qu'on aurait possiblement un, deux, peut-être même trois pompiers
qui vont
occuper les bureaux du presbytère au deuxième étage. On se donne ce soir, c'est pas finalisé encore, mais on prend de l'avance, on se donne l'autorisation à nous-mêmes de signer un bail. La première année, les locaux vont être offerts gratuitement aux pompiers parce que, vous savez, on est membre de la régie, on paye une quote-part. Si on charge quelque chose à la régie, on va en payer une partie. C'est prendre d'une poche puis remettre de l'argent dans l'autre poche. Là. Fait que pour faciliter le transfert, j'ai offert les locaux gratuitement au départ. Dans un an, on verra. Ça restera peut-être gratuit. Il y aura peut-être à ce moment-là un peu d'expérience de notre côté de voir ce que ça nous a coûté de plus. On soupçonne que ça ne nous coûtera rien. Fait que, on chauffe la bâtisse anyway, ils arrivent avec le cellulaire, ils vont arriver avec leur bureau. La seule chose que je me suis engagé à payer, c'est de monter une ligne du sous-sol pour le service Internet, de monter ça au deuxième étage pour qu'ils puissent brancher leur grosse imprimante sur Internet. Ça va coûter une couple de 100 piastres. Puis là, on a des pompiers qui sont à notre disposition sur place. Alors, Qui nous propose ça?
André.
André nous propose ça. Louis, tu es d'accord?
Oui.
Louise. Michel.
Oui.
Yves.
Oui.
Et Barthélémy.
Oui.
Alors, on est maintenant rendu au point 8.1 qui est, on va finalement finaliser les rénovations à la bibliothèque. Il nous reste, puis ça avait été tout budgété, planifié par l'ancien conseil, ça, on a décidé de finaliser ça. L'ancien conseil, il n'y avait pas juste des mauvaises idées, là. Il y en avait des bonnes. Puis Louis nous le dit souvent. Puis Andrew aussi. Fait que, je fais des blagues, là. On va engager les constructions des pionniers pour finaliser des aménagements à l'intérieur. Il y a toutes sortes de petites choses qui restent à faire, là, mais après ça, la bibliothèque est au niveau. Alors, qui nous propose ça? Louise, qui a beaucoup à cœur qu'on ait une belle bibliothèque fonctionnelle. Louis, tu es
fière.
Tu vas être fière, oui. Louis, tu es d'accord avec ça? André?
Oui.
Barthélémy?
Oui.
Michel?
Oui.
Yves?
Oui.
Parfait. 8.2, c'est une formalité, là, c'est pas facile à comprendre, mais je vais essayer de vous rendre ça simple. Dans les états financiers des municipalités qui sont vérifiés aujourd'hui, il y a des normes qui nous sont imposées. Il y a une norme qui vient du gouvernement du Québec auprès des firmes comptables qui offrent le service aux municipalités pour qu'on identifie les bâtiments dans lesquels il y a de l'amiante et qu'on estime les coûts de réparation, de mise à niveau. On est comme obligé de faire ça. Cette année, il faut qu'on va avoir une ligne dans nos états financiers ou une note de bas de page, qu'importe. On va avoir des renseignements sur nos bâtiments municipaux qui ont ou pas de l'amiante. On sait déjà qu'il y en a au presbytère, mais ça n'a jamais été évalué correctement, puis on n'a jamais eu d'estimé de ce que ça pourrait coûter réparer ça. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire, là. Tu sais, le presbytère, il est sécuritaire. Tant qu'on touche à rien, là, l'amiante, elle reste dans les murs, là. Fait que, on fait faire une évaluation du presbytère, du bureau municipal, de la caserne, puis pas le garage, j'imagine. Voilà. Alors, un petit contrat au montant de 5 520 $, qui est le maximum. Ça va peut-être coûter moins cher que ça, parce que pour le presbytère, on a déjà de l'information. Fait que... Ça me prend un proposeur pour cela. André? Louis, tu es d'accord? Louise? Yves?
Oui.
Michel?
Oui.
Barthélémy?
D'accord.
J'avais l'impression qu'on approchait de ton contrat avec Pluritech, mais il est plus loin. Louis, je vais te passer la balle, ce ne sera pas long. En urbanisme, trois dossiers à vous présenter assez rapidement. En fait, quatre, mais trois qui sont des... Souvenez, lors de la dernière rencontre, séance publique du 2 mars, on a adopté la première version du règlement constituant la quatrième modification du plan d'urbanisme pour rajouter des noms de rues qui pourraient devenir publics. Ça inclut la rue des Vallons et la rue Cuthbert. Donc, on adopte ce soir le deuxième projet de règlement. Ça me prend quelqu'un pour proposer ça, Michel?
Oui.
Barthélémy, d'accord?
Oui.
Yves?
Oui.
André?
Oui.
Louise? Oui. Et Louis? Le deuxième, c'est la modification. Vous vous souvenez, on avait expliqué ça en long et en large le 2 mars. On modifie les usages permis dans la zone 101, qui est le cœur du village, dans notre zonage municipal. On rajoute la possibilité d'offrir de l'hébergement. Ça permet de régulariser la situation de l'auberge de jeunesse au village et du gîte touristique, tous les deux propriétés de la même personne. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, là, un gîte touristique, le propriétaire doit, dans l'autorisation qu'on donne, quand on permet un gîte touristique, il faut que le propriétaire vive dans la maison. Ce qui n'est plus le cas, ce qui ne sera plus jamais le cas ici au village, ça devient plutôt une partie de l'auberge de jeunesse, le petit gîte touristique qui est juste à côté du café, là. Fait qu'on change l'usage et on s'est donné un petit peu de flexibilité. On a rajouté la possibilité d'octroyer un troisième permis dans la zone 101. On n'a aucun projet sur la table. On n'est approché par personne. On ne part pas de rumeurs. Il n'y a absolument rien de prévu. Mais on s'est dit, si jamais quelqu'un venait nous voir, on aura la possibilité de l'approuver ou pas. Si le projet fait du sens ou pas. Mais un de plus, pas un autre. On est rendu au deuxième projet de règlement approuvé ce soir. Michel, tu nous proposes ça? Barthélémy?
Oui.
Yves?
Oui.
André? Oui. Louise? Et finalement, Louis. Et non le moindre. Même chose, deuxième projet de résolution pour le PP, c'est moi qu'on a annoncé au mois de... Et en passant, j'ai oublié de mentionner qu'on a eu des consultations publiques sur le précédent sujet, donc l'ajout de l'usage d'hébergement au village et le PPC moi. Tout ça a eu lieu mercredi le 1er avril dernier. Quasiment tout le conseil était là avec notre urbaniste pour présenter tout ça en détail. On a eu le troisième sujet qui était discuté ce soir-là, c'était le PPC moi pour le projet d'utilisation de voitures antiques par un de nos résidents tout près du pont couvert. On a présenté le cadre réglementaire ce soir-là lors des consultations, puis on a demandé au promoteur, qui est Marc-Olivier, ici présent ce soir, de présenter son projet. Avec son approche structurée et réaliste, il a convaincu bien du monde. Fait que ce soir, on approuve le deuxième projet de règlement. Dans les deux cas, le précédent et celui-ci, il va y avoir encore une période de 2 semaines où les gens peuvent faire des commentaires écrits. Et après ça, ben, ça sera done deal, projet réglé. Dans le cas du PPC moi pour l'utilisation des voitures antiques, on a imposé des conditions. On a plusieurs conditions et, par exemple, les voitures ne doivent pas être modifiées, faire plus de bruit. On autoriserait, puis ça a été modifié la mécanique, on autorise de la mécanique dans le garage du propriétaire pour travailler sur ses autos, mais ce qu'on appelle de la mécanique légère, changement de pneus, changement d'huile, mais s'il y a un problème de transmission, on ne veut pas que son garage tourne en garage, en garage de mécanique. Toilettes sceptiques sur place, etc. Fait que c'est tout listé dans le projet de règlement. On serait rendu à approuver ça. Alors, Michel, j'imagine que tu me proposes ça. Barthélémy?
D'accord.
Yves?
D'accord.
Mais est-ce qu'avant de l'adopter, on peut pas ouvrir, il faut pas ouvrir la salle? Non? Pas obligé?
J'allais l'oublier. Mais moi, je suis bien ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Okay. Qu'il y a quelqu'un qui aurait des commentaires sur ce projet-là? Merci. C'est tout petit, c'est fait par des gens raisonnables, puis je pense que ça peut aider à faire connaître la région, le village, si ça va bien. Alors, Yves nous a proposé ça, Barthélémy, d'accord, Yves était d'accord.
Oui.
André?
D'accord.
Oui, j'ai dit Yves, mais c'est Michel qui nous a proposé ça. Louise, c'est d'accord? Et, Louis? Finalement, en urbanisme... On a des besoins, on a notre urbaniste, Mme Diane Pelletier, qui est en congé maladie depuis maintenant 4 semaines, elle ne reviendra pas avant une autre couple de semaines, sinon plus, les choses traînent. On se donne de la flexibilité en engageant, en signant un contrat à utiliser sur demande de 40 heures avec un jeune urbaniste, formé, un vrai urbaniste à l'université, là, qui va donner un coup de main à notre équipe sur demande. Maximum de 40 heures pour les prochains mois, prochaine semaine, prochain mois, un total de 3 400 $. Le jeune, il a déjà travaillé ici en passant, quand il faisait ses études, si ma mémoire est bonne. Fait qu'il connaît bien notre région, connaît bien notre village. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour me proposer ça. Yves nous propose ça, Michel.
D'accord.
Bart.
D'accord.
André.
D'accord.
Louise. Et Louis. Alors, on est maintenant rendu à hygiène du milieu et on arrive au fameux contrat à octroyer à Pluritech. Et je vais demander à Louis, qui connaît 100 fois mieux le dossier que moi, de vous expliquer de quoi il en retourne.
En fait, le mandat qu'on va donner à Pluritech En fait, on veut procéder au raccordement du puits numéro 3. Là, je pense qu'on a déjà parlé au secteur de la montagne. Les plans et devis ont été faits. On veut faire les travaux. Puis évidemment, si les coûts sont dans la fourchette qu'on attend, on va procéder aux travaux. Mais pour procéder aux travaux, il a fallu faire une mise à jour un petit peu sur les plans et devis parce qu'on avait séparé le contrat en deux parties. L'an passé, on a préparé le puits. Cette année, on fait le reste. Et le contrat qu'on va donner, c'est beaucoup pour la surveillance des travaux. Là, 80% du montant qu'on va donner, c'est pour la surveillance des travaux et la préparation des plans finaux, ce qu'on appelle les plans tels que construits. Donc, c'est un contrat à service professionnel à Pluritech qui a préparé les plans et qui a fait tous les travaux relatifs à ça, là, pour principalement la surveillance des travaux, comme je dis. Un contrat de 58 195 plus les taxes.
Puis si ma mémoire est bonne, Louis, il y a au-dessus de 40 000 dans le contrat qui est prévu pour la surveillance des travaux.
Un peu plus même.
On lance l'appel d'offres jeudi de cette semaine, le 9 avril, pour avoir des soumissions pour faire les travaux. Puis après ça, on va prendre une décision sur le meilleur des soumissionnaires. Et donc, ça s'en vient, ça se fait. Tout ça est prévu par ce qu'on appelle la TEC. L'argent qu'on reçoit du gouvernement du Québec en retour de la taxe d'assise, la taxe de vente, la taxe d'assise, je ne sais pas trop, là. Mais ça, c'est une enveloppe qui nous est donnée à nous, garantie, et c'est des travaux tout à fait admissibles. Fait que la totalité des coûts du projet devrait être payée avec la TEC, à moins qu'on ait des surprises en termes de soumissions qu'on va recevoir. Mais nos estimés nous laissent croire que ça devrait aller.
Alors, je le propose.
Merci, Louis. Louis, es-tu d'accord avec ça, toi? André?
Oui.
Michel? Voyons, Yves?
Oui.
Michel?
Oui.
Barthes?
Oui.
OK. On est rendu au point 12.1. Comme Pépinière du Parc, ils ont gagné bien des prix, là. Puis on était bien fiers d'eux autres, là. On a décidé de renouveler leur contrat pour l'entretien des espaces fleuris de la municipalité. Pour un montant de 14 175 plus taxes applicables. Qui me propose ça?
Je te propose.
Yves, merci. Michel, d'accord?
D'accord.
Pat?
Très d'accord.
André?
D'accord.
Louise?
Oui.
Et Louis? OK. Maintenant, on a deux petits dossiers, finalement, à traiter de demandes d'aide financière qui nous ont été soumises. Le premier, c'est l'Association des chasseurs et pêcheurs en bordure du parc, qui entretiennent le chemin public d'accès aux terres publiques dans ce coin-là depuis des années. Ils vont faire une demande, si ce n'est pas déjà fait, au ministère des Ressources naturelles et des forêts pour avoir une subvention pour les aider à entretenir leur chemin. Le projet est de 24 000 $ au total. Ils demandent 18 000 $ au ministère des Ressources naturelles. Ils vont mettre 3 000 $ de leur poche et ils nous demandent, la municipalité, de les aider à raison de 3 000 $ Ils ont soumis ça dans le fonds participatif Mathieu Saint-Ouen. Le conseil a décidé en majorité d'approuver le projet. Parce qu'en bout de ligne, c'est quoi? C'est un projet qui donne accès à des terres publiques pour des activités récréo-touristiques. Ça participe au bien-être des citoyens et d'autres. Ça me prend quelqu'un pour me proposer ça, s'il vous plaît. Yves. Louis, tu es d'accord?
Oui, d'accord.
Louise?
Oui.
André? Michel?
Oui.
Barthes?
On ne peut pas être 100% du temps toujours d'accord. Alors, moi, je suis contre principalement pour le fait que, personnellement, je ne pense pas qu'on devrait utiliser le fonds participatif, qu'on appelle aussi le fonds Mathieu Saint-Ouen, pour de l'entretien de chemin. Ce fonds-là, historiquement, on l'a utilisé pour soutenir des organismes qui organisent des activités, des événements en loisirs, en culture, très principalement, voire exclusivement. Donc, je ne pense pas qu'on devrait l'utiliser à la pièce pour de l'entretien de chemin. Cela dit, je pense que c'est une bonne chose que ce chemin-là soit entretenu d'une façon ou d'une autre. Mais bon, je voulais simplement le mentionner et ça ne change rien. De toute façon, je respecte la majorité des votes au sein du Conseil.
Merci, Bart. Effectivement, c'est une première et pas une dernière. Nous autres, comme Conseil, là, on n'a aucun problème à avoir la dissension bien exprimée, rationnelle. Chacun a droit à ses opinions. On n'a pas de ligne de parti. Fait que Barthélémy, on n'a pas réussi à le convaincre. Et on l'a invité à vous dire pourquoi il était contre ce soir. Puis je trouve ça très sain en démocratie. Fait que j'ai oublié de vous mentionner une chose toutefois. Deux choses. La première, c'est que la façon dont le programme est écrit, le projet est admissible. Puis la deuxième, c'est que notre offre de 3 000 est conditionnelle à ce qu'ils obtiennent le 18 000 du ministère des Ressources naturelles. S'ils ne l'obtiennent pas, on ne met pas une scène parce qu'il n'y aura plus de projet. On serait rendu maintenant à notre dernier point à l'ordre du jour, qui était une demande d'aide financière qui nous est parvenue de la FADOC ici à Saint-Mathieu pour l'organisation d'activités socio-culturelles. Ils en font régulièrement. Ils ont cru bon cette fois-ci pour un événement qui va avoir lieu, si ma mémoire est bonne, le 24 avril, de nous demander un petit peu de support financier. Le conseil était d'accord. On a eu une demande de 600 $. On a décidé d'octroyer 500 $. Pardon, mon Dieu, pardon. Alors, qui nous propose ça? Louise nous propose ça. Louis, tu es d'accord?
Oui, d'accord.
André?
D'accord.
Yves?
Oui.
Michel? Michel se retire parce qu'il siège au conseil d'administration de la FADOC. J'avais oublié, j'aurais même pas dû te demander si tu votais ou pas. C'est une règle. C'est le code de déontologie qu'on a approuvé ce soir. Il est en conflit d'intérêts, malgré lui. Barthélémy?
D'accord.
Alors, autre sujet que quelqu'un d'entre nous voudrait traiter? Mention des élus, on avait prévu parler des prix, mais on les a mis dans le mot du maire d'un accord commun. On a combien de gens de présents ce soir, André?
Ah, Éric, pour oui? le mot des élus concernant, il y avait deux personnes qui quittaient le comité CLCVC.
Ah, mais si tu veux mentionner ça, c'est...
Oui? Ah, ben, oui, je peux. Oui. Oui. Donc, le comité CLCVC, Loisirs, Culture, Vie communautaire, c'est un comité qui est en place, qui se réunit quelques fois par année avec un membre représentant du conseil et plusieurs résidents citoyens de la municipalité. On a deux personnes qui quittent le comité, qui ont quitté le comité récemment, donc Suzanne Guillemette, dont on a parlé en introduction, et François Bruneau. Donc on tient à souligner leur bon travail et leur contribution au cours des dernières années au sein du comité.
Merci de m'y avoir fait penser, c'est tout à fait pertinent. François, je pense qu'il avait donné plusieurs années à siéger sur ce comité-là. C'est un comité qui est important, ça, hein, qui décide les activités sociales, qui participe à la gestion des loisirs, toutes des choses dont les résidents voient les résultats concrètement là, dans la vie quotidienne. Là. Fait que, oui, merci à François, merci à Suzanne. Suzanne a siégé sur le comité, je pense, 2 ans, ce qui est quand même notable. Mais je pense que c'est une femme assez occupée. Alors, finalement, j'ouvrirai une période de questions pour s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser sur n'importe quel sujet concernant les affaires municipales, on s'entend. Non, mais Laurier, tu étais parti de te lever, là. Tu peux t'en venir si c'est... Ah, oui, j'ai fini.
Éric, on ne l'a pas ajouté, excuse-moi. Est-ce qu'on ne devait pas mentionner quelque chose par rapport aux activités sportives au gymnase?
Oui, vas-y.
On en a... On peut-tu en parler?
Ah, pour le prolongement de...
Oui,
vas-y. C'est
une bonne nouvelle.
Vas-y, oui.
Au niveau des loisirs, pardon, ce ne sera pas long. Il y a des activités sportives, comme j'espère la plupart des gens le savent, au gymnase de l'école qui sont organisées les soirs de semaine et même maintenant, un samedi matin sur deux pour le pickleball. Il y a un sport différent chaque soir de la semaine. C'est populaire. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça à Saint-Mathieu. Et puis pour la session, là, on va dire d'hiver, qui commençait au mois de janvier, ça devait durer 15 semaines. Et à la demande des gens qui en profitent, on va prolonger de quelques semaines pour aller à fin mai, début juin, je pense.
4 semaines.
4 semaines de plus. Donc, c'est approuvé. Puis, on devait l'approuver comme conseil aussi, parce qu'il y a des petites dépenses liées à ça, les appariteurs qu'on doit payer. Puis, on doit les payer, ils ne peuvent pas le faire sur une base bénévole, notamment pour des raisons d'assurance. Donc, on est tous d'accord pour offrir ça à la population.
On n'avait pas besoin d'une résolution pour approuver ça. On le fait en session de travail parce qu'on avait juste comme conseil à autoriser l'utilisation des fonds supplémentaires nécessaires. Laurier, on t'écoute.
OK. Bon, moi, c'est une petite question. Les beaux pots de fleurs là, d'un poteau électrique, moi, j'aimerais savoir le coût de ça, les salaires, l'engrais, le coût pour toute l'année, ce que ça peut coûter à la municipalité. Parce qu'on voit des fois qu'il arrose, il y a des erreurs, mais ça arrose pareil. Puis, en tout cas, je me pose des questions du coût de ça.
Je pense. Hey,
Laurier, je peux-tu répondre à Laurier?
Ben oui, donc.
Ouais. Laurier, ancien paysagiste, même quand il mouille, là, les potées fleuries qui sont là, dans le village, il faut que tu les arroses parce qu'il y a beaucoup de feuillage, puis souvent, l'eau elle coule chaque côté. Fait que c'est
non, mais moi, c'est de savoir le coût de ça. Parce qu'il y a un coût. Là,
bien sûr. Puis ça, j'imagine que ces pots-là, il faut les acheter en début d'année. Puis c'est peut-être même Pépinière du Parc qui nous vend ça, non?
Oui.
Non. Ah, j'aurais aimé ça que ce soit avec vous autres, Evelyne. Mais la vraie question, Laurier, là.
Oui.
La vraie question, là.
Oui.
C'est.
Non, c'est pas.
Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? OK? Si tu me demandes, là, si tu veux savoir exactement le coût, évidemment, je ne peux pas te répondre. Je peux m'engager. On va te répondre, OK? On va te le donner le coup.
C'est ça, le
mais la vraie question pour moi, là, ça va inclure tout, OK? La vraie question pour moi, c'est est-ce que comme village, avoir des pots de fleurs sur la rue principale, comme nos lampadaires, comme tout le reste, est-ce que c'est des activités, des investissements qui participent à notre bon plaisir, à notre bonheur comme communauté? Puis moi, je vais te dire, Laurier, quand j'arrive au village puis je vois les fleurs en été, là, je suis bien content.
Ben, y en a pas. Non, mais c'est correct. Mais bien souvent, là, quand ils enlèvent, personne n'en parle parce qu'il y a eu des années qu'ils n'avaient pas, puis il n'y a vraiment personne de ça qui en a parlé.
Oui, mais le monde évolue, là. T'as du monde de la ville qui arrive, là, qui sont habitués, qui sont fancy.
Oui, c'est vrai que moi, quand j'étais un gars
de le monde de la ville, il aime ses fleurs, Laurier.
C'est vrai que je suis un autochtone, moi.
Bien, écoute, Laurier, je m'engage à te ramener.
Moi, je veux savoir le coût des salaires et tout.
Ben, regarde, j'ai Madame la DG qui vient de faire un petit estimé, là, 5 400 $, puis il manque juste l'engrais. C'est ça que ça coûte.
Non, non, mais je parle des salaires des employés municipaux.
Oui, je parle c'est le chiffre que... Mais on va te mettre ça par écrit, puis on va te l'envoyer, Laurier.
Oui, des salaires, l'engrais, puis tout.
Tout.
Parce que les fins de semaine... Quand
mais je vais te dire tout de suite, Laurier.
Oui.
On va se mettre d'accord sur une chose.
Oui.
Si Mme la DG est à peu près juste dans son estimé, là, à 1000 piastres près, là, les fleurs, ils vont rester à Saint-Mathieu.
Non, je ne vais pas les enlever, c'est pas ça que je dis. Puis je ne suis pas contre les fleurs, mais le prix est trop cher pour qu'on ait des fleurs. À un moment donné, un pot, là, c'est beau. Là, mais...
ben, comme je te disais, c'est une question, c'est subjectif, ça.
Si j'emmènerais des fleurs à ce prix-là, ma
c'est
femme...
C'est sûr. Écoute, écoute, Laurier, si j'étais obligé d'augmenter vos taxes municipales chacun de 200 piastres par année à cause des fleurs, je me garderais une petite gêne. Mais à 5000 piastres, pour qu'on ait un beau petit cœur du village, je pense que le conseil va être d'accord avec moi pour dire que ça vaut la peine.
C'est chacun ses goûts.
Chacun ses goûts.
Ouais. On pourrait en parler à consultation de l'automne, peut-être.
Oui, c'est ça. Marc-Olivier Narain-Singh. En fait, moi, ma question, c'est pour le comité en culture et patrimoine. J'œuvre dans le domaine de culture et patrimoine, donc je me demandais si, à cause qu'il y avait deux personnes qui se retiraient, s'il y avait des places du verre pour joindre le comité.
Des appels de candidature? Ouais. Comment ça fonctionne? Sais-tu? On va faire un appel de candidature, puis Marc-Olivier, on attend ta candidature avec grand plaisir.
Super, merci bien.
Alain Dorval au lac McLaren. C'est le 6.3, adoption du règlement 2026-05 sur le traitement des élus. Est-ce que vous avez eu une pensée aux jetons du comité consultatif qui sont bénévoles?
C'est un autre règlement.
Ben,
tu nous demandes s'il ne serait pas temps de réviser la valeur du jeton qu'on donne aux gens qui siègent au CCU.
Exactement, oui.
Écoute, je m'engage à avoir une discussion au conseil là-dessus.
OK, merci beaucoup.
Je ne peux pas me commettre en rien. Là,
non,
mais c'est
ça,
vrai
mais...
que le montant est vraiment minime, puis c'est le même depuis longtemps.
Longtemps, exactement. Ça, je me demande si vous aviez une pensée pour ces gens-là.
On n'en a pas eu, mais là, grâce à toi, on va en avoir eu.
Je vous le fais penser. J'avais une question qui n'est pas le sujet de ça. C'est le sous-sol ici, en dessous, qui a eu des dégât d'eau. La moitié des murs ont été arrachés. Est-ce que éventuellement, il va y avoir...
C'est prévu au PTI. Si ma mémoire est bonne, on a mis même des argents pour finir le sous-sol.
Oui,
c'est prévu, puis ça va se faire cette année.
Soit cet automne, soit au printemps prochain. Okay. Là, on attendait d'être sûr que ça ne coule plus avant de refaire les murs.
OK, OK. Bon, merci.
On va refaire ça comme du monde. Bon, alors là-dessus, oui, Claude. Hey, j'étais justement en train de me dire, voyons, Claude n'a pas posé de question.
Bien, oui, une petite question, Claude Frigon. Écoutez, c'est juste pour une petite question concernant la ressource professionnelle en urbanisme. Est-ce que ça va être un poste qui va être en présentiel?
C'est une banque d'heures. Il ne sera pas en présentiel. Il va être
en télétravail?
Oui, en télétravail avec nous. Mais il peut venir si il y a un besoin, il peut se déplacer ici. Mais ce n'est pas une ressource qui va répondre au téléphone, là. C'est une ressource qui va répondre principalement à des demandes de permis en ligne, des besoins supplémentaires en urbanisme, si des fois okay. Il y a pour la rédaction réglementaire, etc.
OK. Merci.
C'est tout?
C'est tout.
Wow. Est-ce que je dois comprendre, Claude, que tu es assez content des annonces qu'on a faites ce soir sur le Lac Adem, sur la station de lavage, le programme?
La station de lavage, on peut en parler si vous voulez, mais moi, ce que j'aimerais de voir, c'est... étant donné que le statut privilégié du lac Souris, qui est Saint-Élie, Saint-Mathieu, voir s'il pourra y avoir une sorte de collaboration entre les deux municipalités pour l'histoire des vignettes, que peut-être que, vu qu'on est plus gros, c'est-à-dire deux tiers du lac Souris et Saint-Mathieu, qu'on fournirait les vignettes pour Saint-Élie, en échange de... Ça, c'est de la paperasse.
J'ai discuté avec... la mairesse de ce sujet-là, d'une collaboration possible. Puis effectivement, ils ont adopté leur propre règlement. Ils sont pris avec, ils doivent l'administrer. Ils peuvent pas. Leur règlement ne prévoit pas de déléguer une partie de la job à Saint-Mathieu.
Non,
effectivement. Fait que pour cette année, la réponse est non. Okay. Maintenant, l'année prochaine, dans les prochaines années, l'offre de collaboration est sur la table. Charline, la mairesse, me dit qu'elle était bien prête à regarder ça. Mais on va penser peut-être à l'année prochaine.
C'est bien.
OK.
Je vais ajouter qu'on a donné tous nos canevas pour les étiquettes puis qu'ils se sont occupés de faire leurs commandes. Fait qu'ils vont avoir des étiquettes très similaires aux nôtres.
Pour cette saison?
Pour cette année, oui, ils ont commandé.
OK, super.
On a donné les renseignements la semaine passée ou l'autre.
Bon, bien, merci beaucoup.
Ça fait plaisir, Claude. Il me reste-tu quelque chose à faire autrement que de lever la séance? On est rendu là. Alors, merci d'avoir été là. Puis, je vous dis à dans un mois. Belle fin de soirée.